Et effectivement, nous allons nous arrêter sur un thème pas facile, mais nous allons y revenir dans le détail. Alors, je vous propose qu'on puisse lire Philippiens, chapitre 3. Alors, on va quand même commencer au verset 12, et on ira jusqu'au chapitre 4 et au verset 3. Philippiens 3, verset 12. C'est Paul qui parle, hein. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honneur, leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. J'encourage Évodie et Saint-Tiche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Alors j'ai une question dérangeante pour nous ce matin. De bons chrétiens peuvent-ils se disputer? Alors attendez, c'est un QCM. Je vais vous proposer des réponses et je vais vous faire lever la main. De bons chrétiens peuvent-ils se disputer? Première solution, jamais. Deuxième solution, souvent. Troisième solution, toujours. Quatrième solution, malheureusement. Jamais? Souvent? Ah! Toujours? Malheureusement? Alors dans ce texte, on a parlé d'un conflit entre sœurs. Vous l'avez remarqué. Mais je tiens quand même à rééquilibrer un petit peu les choses et je vais vous donner trois autres exemples. Paul et Barnabas, en acte 15, et on peut lire ça les versets 36 à 40, quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc. Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leur tâche. Verset 39, « Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. » Conflit de personnes. Exemple 2, qui ne sont pas dans les Écritures, mais qui sont à la genèse de nos assemblées. Darby et Müller. Ce sont tous les deux des grands hommes de Dieu du 19e siècle qui sont à la base du mouvement du renouveau évangélique dont nous sommes issus. Et parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, ont provoqué la première division du mouvement évangélique. J'ai lu quelque part que Darby aurait appelé Müller, mais malheureusement Müller avait d'autres engagements et n'avait que 10 minutes à consacrer à Darby. Conflit doctrinal entre ces deux hommes, différentes choses, dont l'attribution de la scène. Voilà. Exemple 3, Pierre et Paul dans Galates. Conflit doctrinal essentiel concernant le légalisme entre Paul et Pierre. Alors une remarque importante, et on l'a vu dans ces différents exemples, il existe différents types de désaccords entre chrétiens. Il y a des désaccords doctrinaux, comme c'était le cas entre Pierre et Paul, essentiels, dont d'ailleurs les principes principaux, parce que souvent on dit qu'est-ce qui est essentiel dans l'évangile et qu'est-ce qui est secondaire. Juste simplement, on a une confession de foi dans notre église qui est disponible en libre accès sur notre site internet, donc qui reprend la majeure partie des points principaux, des points essentiels dans ce que nous croyons. Et nous vous invitons à aller y jeter un coup d'œil. On parle de l'autorité de la Bible seule, enfin, l'autorité des Écritures en tout cas, du péché, du salut en Jésus-Christ seul, de la Trinité, des choses qui sont fondatrices pour le salut. Et des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas transiger, et pour lesquelles être en désaccord peut s'avérer nécessaire afin que l'Évangile reste l'Évangile. Néanmoins, dans 99% des cas, dans l'Église, on se retrouve dans des désaccords de point de vue, des conflits de personnes, des conflits relationnels, des choix ecclésiaux de fonctionnement, voilà. Parfois des conflits doctrinaux, mais secondaires. Et cela se produit malheureusement régulièrement. Mais Paul, par ce texte, nous rappelle que dans ce deuxième type de conflit, nous devrions arriver à passer au-dessus. Et que cela ne devrait jamais mener à nous désunir et aller jusqu'à la rupture de relation ou rupture de communion. Donc je vous propose que nous abordions le contexte du conflit entre Évodie et Saint-Tiche, puis nous nous arrêterons sur les impacts et les enjeux d'un conflit entre chrétiens, pour finir avec la méthode proposée par Paul pour résoudre les conflits entre enfants de Dieu. Alors le contexte. Évodie et Saint-Tiche faisaient sûrement partie des femmes qui étaient avec Lydie en acte 16. Il est rappelé dans ce texte qu'elles ont toutes les deux combattu ensemble avec Paul. Il est à préciser aussi que leur nom est inscrit dans le livre de vie. C'est-à-dire, nous parlons là de deux chrétiennes authentiques, ayant porté du fruit et même des responsabilités avec Paul. Deux sœurs en vue de l'assemblée, sûrement des responsabilités dans l'église de Philippe, peut-être deux responsables de commission, je ne sais pas. Un conflit de ce type a encore plus d'impact, puisqu'elles auraient dû être des modèles. Saint-Tiche, ça veut dire rencontre. Et Évodie, prospère. Pour une rencontre prospère, c'est raté. On est devant un problème relationnel. Pudiquement, on a l'habitude de dire entre un tel et un tel, c'est compliqué. Il ne m'a pas dit bonjour. Elle m'a blessé quand ? Elle m'a gardé mon plat ou il m'a gardé mon plat après la dernière agape. Il ne vient jamais quand je l'invite. Ou bien il ne m'invite jamais. J'ai l'impression qu'il m'évite. Je n'ai pas apprécié quand elle a dit que... Voilà, je m'arrête là, hein. Il y a aussi un contexte de la lettre aux Philippiens. Dans la lettre aux Philippiens, vous le savez, on l'a dit, on en a déjà parlé, on va en reparler lors du prochain message, le thème de la joie est très présent. Chapitre 4, la suite, le verset d'après, c'est « Réjouissez-vous ». Mais le thème de l'unité est aussi bien présent. Au début de l'épître, on voit ça au chapitre 1, le verset 27, et aussi le chapitre 2, le verset 2, où Paul va dire « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord ». Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Comme si l'unité était étroitement liée à la joie. Et même une condition pour vivre la joie de manière parfaite dans nos vies chrétiennes. Il est urgent et d'importance capitale de vivre unis les uns les autres et à faire la paix entre nous. D'ailleurs, pourquoi citer ce conflit personnel dans une lecture publique? La lettre aux Philippiens est adressée, on le voit au verset 1 du chapitre 1, elle est adressée aux responsables, d'accord, mais aussi à tous les saints de l'église de Philippe et probablement à des églises autour. Certains se demandent même si Paul n'a pas écrit la lettre aux Philippiens avec l'objectif d'aborder le conflit entre Évodie et Saint-Tiche. Alors il y a des enjeux importants dans un conflit personnel entre deux chrétiens, et c'est pourquoi Paul ne souhaite pas que cela puisse perdurer. On a parfois tendance à l'oublier, mais on peut identifier quatre types d'enjeux majeurs dans un conflit personnel. Et on va passer aux impacts, aux différents impacts. Le premier, c'est qu'il y a un enjeu relationnel entre les deux protagonistes du conflit. La rupture de relation entre les deux protagonistes peut se transformer en guerre de tranchées, où chacun campe sur ses positions. C'est l'autre qui a commencé. Le petit schéma dit « Je ne sais pas pourquoi Paul m'a cité en première alors que c'est toi qui as commencé. » La Bible nous apprend dans d'autres passages que peu importe qui a commencé, car les deux doivent se réconcilier. Celui qui pense avoir été lésé, et on voit ça à Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Et ce passage se poursuit par l'ensemble de la démarche de résolution d'un conflit. Mais aussi celui, bien sûr, qui a mal agi, et on voit ça en Matthieu 5, verset 23 à 24, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Tous deux doivent faire le premier pas. Personne ne doit attendre. Ne soyons pas hypocrites, mais honnêtes. Devant les situations créées ou subies de nos vies, et demandons à Dieu de nous éclairer afin de regarder en avant plutôt qu'en arrière aussi dans nos relations. Quelque part, ça pourrait être une question, pourrait être, est-ce que quelque chose a été coupé depuis ? Le deuxième enjeu, c'est un enjeu spirituel. Enjeu spirituel du progrès dans la vie spirituelle de ces deux personnes. Sans demande ou accord de pardon, comment vivre le pardon de Christ pour moi ? C'est l'histoire du serviteur impitoyable de Matthieu 18 qui refuse de pardonner peu alors qu'il avait été pardonné beaucoup. L'un des rôles de la scène que nous prenons régulièrement est de nous rappeler que nous devons vivre unis les uns aux autres. Le plan de Dieu pour ma vie est de cultiver des rencontres prospères et non des disputes amères. Quand je suis en conflit avec un frère ou une sœur, je ne pratique pas les bonnes œuvres préparées d'avance. Je fais l'inverse de ma raison d'être. Le troisième enjeu, c'est un enjeu collectif, un enjeu d'église. En tant que spectateur du conflit, on pourrait se dire « ce n'est pas mon problème ». C'est un problème relationnel entre un tel et un tel. Mais il y a un risque de division et de prise de parti. Et l'histoire, malheureusement, nous apprend, entre Müller et Darby, que les choses se sont mal passées par la suite. Il y a un risque, quelque part, que le corps de Christ soit redivisé par notre conflit. Il y a une autre chose, c'est que cela peut devenir une pierre d'achoppement pour les jeunes chrétiens ou ceux qui sont en chemin. On a vu des nouvelles personnes arriver et on est ravis, heureux, ça réjouit notre cœur. Mais notre responsabilité, c'est aussi d'être des modèles, et le texte va nous parler de ça par la suite. Être une pierre d'achoppement pour des jeunes chrétiens qui pourraient voir se déchirer leur modèle. Il y a un enjeu aussi dans nos familles. Nos enfants nous voient gérer nos relations. La dernière chose, le dernier enjeu, c'est l'enjeu du témoignage extérieur. Si ce conflit arrive aux oreilles de Paul en prison à Rome, c'est que le problème fait du bruit. Et sûrement pas que dans l'Église. Il y a un impact sur le témoignage. Et dans ces conditions, le rassemblement peut dégager un parfum de mauvaise odeur, de repoussoir. Et le problème majeur, c'est que les gens vont repousser l'ensemble. L'Église, les chrétiens et Dieu. Alors l'idée n'est pas de dire qu'il n'y aura jamais de désaccord dans l'Église, puisque nous sommes une concentration d'êtres imparfaits qui se côtoient en plus régulièrement, plusieurs fois par semaine certains. À partir du moment où on est plus de un, personne n'est à l'abri. Hein. Mais la question est plutôt, comment allons-nous réagir quand il y en aura ? Allons-nous camper sur nos positions et laisser pourrir une relation ? Allons-nous claquer la porte ? Allons-nous gesticuler et essayer de nous justifier et d'obtenir justice, quitte à semer la zizanie? Certains vont-ils quitter l'assemblée? Hébreux 10, verset 25. Ou bien allons-nous réagir comme des chrétiens mûrs, comme nous y invite Paul? Alors dans cette dernière partie, j'aimerais que on essaye de voir un petit peu comment résoudre un conflit. Dans le texte qui précède et que nous avons lu, nous trouvons des éléments de réponse pour résoudre et même prévenir les conflits entre frères et sœurs. C'est le remède de Dr Paul à la maladie du conflit, à appliquer sans modération, en curatif ou en préventif. Et le remède est clair et il est répété à deux reprises, au verset 16 et 4 au verset 2. C'est vivre en plein accord dans le Seigneur. Alors pour ceux qui sont en conflit, vivre en plein accord dans le Seigneur, c'est tout d'abord ressembler à Jésus-Christ. Au verset 15, on lit « Adoptons cette attitude », c'est-à-dire « Oublions ce qui est en arrière, comme nos raisons justifiées, ou non d'ailleurs, de conflit, et ressemblons à Christ ». On l'a déjà abordé dans Philippiens 2, verset 5, mais le but est que notre attitude soit identique à celle de Christ. Et qu'a fait Christ? Il n'a pas regardé son égalité. Il s'est dépouillé. Il a pris une condition de serviteur. Comme un simple homme, il s'est humilié, faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Et le texte continue. Puis Dieu l'a élevé. Un proverbe hébreu dit « Celui qui se tait le premier dans une dispute est le plus digne de louange. » Celui qui se tait le premier dans une dispute est le plus digne de louange. Ressembler à Jésus-Christ, c'est lâcher mon orgueil, lâcher mes droits. C'est-à-dire, comme nous le rappelait Nasser il y a quelques semaines, c'est détrôner notre moi royal pour que Christ puisse régner dans ma vie. Vivre en plein accord dans le Seigneur, c'est régler mon problème de cœur premièrement. C'est difficile. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que c'est possible. Et cela est possible si je laisse l'amour de Christ grandir dans ma vie et que je diminue mon orgueil. C'est possible si je laisse l'amour de Christ grandir dans ma vie et que je diminue mon orgueil. Et ainsi, je vivrai en plein accord avec les autres, grâce au Seigneur. Le deuxième médicament que nous propose Paul. Ah, la flèche n'est pas passée, c'est pas grave. Il y a une flèche entre les deux. Allez là, ça y est. C'est se rappeler notre objectif commun. C'est tourner les yeux dans la même direction plutôt que l'un contre l'autre. C'est ce chant qui dit « Tournez les yeux vers le Seigneur et les choses de la terre pâliront peu à peu et les conflits de la terre pâliront peu à peu. » Le texte au verset 20 et 21 va encore dans ce sens et Paul nous invite à nous rappeler de notre espérance commune. Nous avons un droit de citer ensemble dans le ciel. Nous avons un héritage éternel. On est plusieurs sur un héritage habituellement. D'ailleurs, des fois, c'est un problème. Sur terre. La résurrection de nos corps encore glorieux. Le fait de bientôt être libérés de notre corps et de notre orgueil de misère, car soumis à son autorité parfaite et dans sa gloire. Quelque part, se rappeler que ce qui nous est commun est plus grand que ce qui nous divise, et que nous allons passer l'éternité ensemble. Shakespeare a dit « Il est dans la nature des hommes de quereller pour de petites choses, bien que les grandes seules les préoccupent. » Troisième médicament, s'inspirer des bons modèles et non des mauvais. Et le texte en parle aussi dans le texte, Paul en parle dans le texte, qui ont pour Dieu leur ventre et leur chair, leur orgueil. Ce sont des gens qui ne marchent pas à la suite de Jésus-Christ. Mais Paul nous invite à nous inspirer des bons modèles. Quand il dit « marchons », en grec c'est « marchons en ligne », marcher les uns derrière les autres. C'est-à-dire qu'on regarde comment celui de devant il marche. Les bons modèles, c'est ceux qui laissent régner Jésus-Christ dans leur vie et qui marchent avec Jésus-Christ en tête de file. Paul, Épaphrodite, Timothée, Abraham, Moïse, David, dans l'église locale, vous avez des noms. Je ne vous les demande pas. Mais on s'inspire. On s'inspire des frères et sœurs que nous côtoyons et qui sont des modèles pour nous. Et c'est une bonne chose. Une remarque. Les bons modèles peuvent être parfois imparfaits. Mais leur Dieu, lui, reste parfait. Alors on a parlé des solutions pour ceux qui sont en conflit. Mais il y a également un appel à œuvrer pour vivre en plein accord pour ceux qui sont témoins du conflit. Et ils ont un rôle. Et pour cela, regardons l'attitude de Paul. Il encourage fraternellement et de manière bienveillante. Et il commence et il dit « Très chers frères et sœurs ». Et il continue, on est juste en deux versets. « Ma couronne, ma joie, mes bien-aimés. » Paul exprime son amour sincère et fraternel avant de leur dire, sans rien cacher, ce qu'il pense de la situation d'Évodie et Saint-Tiche. Un des principes forts de la vie communautaire est la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, verset 15. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. La vérité, mais pas au détriment de l'amour. L'amour, mais pas au détriment de la vérité. Ni laxisme, ni légalisme, c'est un divin équilibre et un divin garde-fou dans nos relations. Un vieux proverbe arabe, quand vous tirez une flèche, plongez-la d'abord dans le miel. Mon but devrait toujours être d'édifier avec tact et bienveillance mon frère, ma sœur, ce qui est complètement différent de vouloir avoir raison. Quand on est témoin d'un conflit, forcément, Et quand on veut aider, il est nécessaire que l'on purifie nos intentions dans la prière. Et tant que ce n'est pas clair, de ne rien entreprendre, même pour des bonnes raisons. Même pour des bonnes raisons. Mon intention est ce qui va ressortir de mon action. Dans les relations, mon intention est ce qui va ressortir de mon action. Et tant que ce n'est pas pur et que ce n'est pas clair, on n'y va pas. Par contre, on a un rôle à jouer. Et d'ailleurs, c'est intéressant dans le texte de voir par la suite, je crois que c'est au verset 2, il me semble, où Paul va employer le « tu ». Depuis le début de la lettre aux Philippiens, il parle à vous, et d'un coup, il dit « toi ». « Toi, mon fidèle collègue ». À qui parle-t-il ? L'identité est floue de ce « tu ». On peut penser, certains ont pensé à Épaphrodite, qui a œuvré là-bas. Peut-être que c'est un ancien de l'église de Philippe, mais la lettre est également adressée aux responsables, et effectivement, c'est de la responsabilité première des responsables. Mais pas que, puisque la lettre est adressée à tous les saints. Toi, mon fidèle collègue, cela pourrait être n'importe quel chrétien mature et bienveillant. Car nous avons également reçu le ministère de la réconciliation aussi dans les relations interpersonnelles. Matthieu 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » On connaît tous ce chant, on pourra peut-être le prendre à la fin. « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. » Épictète a dit « L'homme de bien ne se dispute avec personne et autant qu'il le peut, en empêche les autres. » Deux questions que j'aimerais te laisser ce matin, à toi, mon fidèle collègue. Quelle est la relation que Dieu te demande de reconstruire? Quelle est la relation que Dieu te demande de reconstruire dans ta vie? Et la deuxième, dans quelle relation pourrais-tu aider à la réconciliation en vérité dans l'amour? Pour conclure, le conflit personnel entre deux chrétiens est un problème global. Tous ne sont pas coupables, mais chacun est responsable. C'est un problème sérieux puisque la réputation de Dieu et de son Église sont en jeu. De plus, c'est un témoignage fort et vivant que malgré les divergences, l'unité est possible dans le Seigneur. Alors, pour chacun d'entre nous, efforçons-nous donc, avec le secours et les forces renouvelées de Dieu, à vivre en paix avec tous, à être des cléments. Paul en parle dans le texte. Des cléments. Des personnes douces et faisant preuve de bonté. Et également à être des ouvriers de paix là où Dieu nous place, dans nos vies, nos familles, nos voisinages, et à cultiver des rencontres prospères avec tous ceux que nous côtoyons. J'aimerais pour finir vous laisser cette citation, cette dernière citation, j'ai cité beaucoup. Mais l'amour le plus beau est fait d'innombrables minuscules conflits, toujours résolus. On pourrait chanter. C'est le sens.